Alors, je ne sais pas quelle est votre quête spirituelle, et je ne sais pas pourquoi vous êtes rentré dans ce bâtiment, mais vous avez peut-être d'ailleurs pas forcément de problème avec Dieu. Vous avez peut-être plus de problèmes avec ceux qui se revendiquent chrétiens. Je ne sais pas où vous en êtes, mais ce que je pense en tout cas, c'est que nous avons tous, je pense, au fond de nos cœurs, un même désir. Que l'on soit chrétien depuis longtemps ou pas, nous sommes en recherche d'une connaissance, celui ou celle de Dieu. Et cette question mérite vraiment notre attention. Et c'est à laquelle on va s'attaquer ce matin. Comment connaître Dieu? Paul, apôtre au 1er siècle, a écrit une lettre à destination d'une église qu'il a fondée et il entend montrer comment on peut connaître Dieu. Et il s'attachera particulièrement à montrer et à disqualifier la sagesse humaine, la quête rationnelle pour connaître Dieu. Alors de suite, on est face à une objection. Et un certain Albert Jacquard, scientifique et écrivain français, a bien résumé cela. Comment le chrétien pourrait à la fois remercier Dieu de nous avoir donné une si fabuleuse outil de logique, notre cerveau et l'intelligence qui va avec, et admettre que nous devons en abandonner l'usage au moment où nous efforçons de nous approcher de lui? Est-ce que les chrétiens, est-ce que nous avons abandonné notre intelligence pour nous approcher de Dieu? Je ne le crois pas. Je crois plutôt, et c'est ce que nous allons découvrir, que Dieu a frappé la sagesse humaine de folie pour que la connaissance de Dieu soit un véritable cadeau. Nous allons lire notre texte qui est assez long en plusieurs parties. Il est en 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10 jusqu'au chapitre 2 verset 5 et c'est dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible. 1 Corinthiens 1 chapitre verset 10 jusqu'au chapitre 2 verset 5 et là je vais lire du verset 10 au verset 17. 1 Corinthiens 1 verset 10 au verset 17. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Ce n'est pas pour baptiser en effet que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Une église chrétienne, et ça c'est ce qu'on a vu la dernière fois, une église chrétienne existe dans cette ville de Corinthe, en Grèce. Et pour l'apôtre Paul, c'est un grand sujet de joie, un grand sujet de reconnaissance. Une église qu'il a fondée et qui est présente à Corinthe. Pour lui, c'est un grand sujet de joie. Mais pour autant, ce grand sujet de joie est malheureusement pour lui pas tout à fait satisfaisant parce qu'il n'est pas heureux de la situation de cette église à Corinthe. Et ça, on vient de le voir au verset 10 jusqu'au verset 17. La situation de cette église, elle est proche de l'implosion. Paul a appris de sources sûres par des serviteurs, sans doute de cette commerçante, Chloé, qui se rendait sans doute d'Éphèse, qui était en Turquie jusqu'à Corinthe, qu'il y a un esprit de dispute qui semble difficile de résister. Il est souvent difficile de ne pas se laisser emporter par les critiques, ce rouleau compresseur qui montre souvent notre incapacité à la maîtrise de nous-mêmes. Mais que se passe-t-il exactement dans cette église? Les uns se réclament de Paul, l'apôtre et le fondateur de l'église, d'autres d'Apollos, un excellent orateur, enseigné sans doute dans un des plus grands centres de l'époque à Alexandrie, d'autres de Pierre, l'apôtre des Juifs, et encore d'autres du Christ. Dans cette église de Corinthe, comme dans beaucoup d'autres, des disputes apparaissent. Et c'est sans doute moins une histoire de contenu enseigné qu'une histoire de personne. Et pour peut-être que vous compreniez ce qui était en train de se passer, je vais le rendre en version 2019 à l'EBTM. C'est comme si certains de l'église se réclamaient de Tim Knickerbocker, sans doute pour sa qualité de fondateur de l'église, et comme ayant été le baptiseur des premiers. D'autres pour Vincent, car il est vraiment le refondateur de l'église, le père spirituel. Ou d'autres de Samuel Nibla, car vraiment c'est un excellent enseignant, un musicien hors pair. Ou d'autres pour le dernier arrivé, le pasteur stagiaire. Lui, il est vraiment différent, forcément, il vient d'arriver. Sans parler de certains autres, eux, ils ont compris. Ils ne s'attachent plus aux hommes, ils savent, eux, au contraire, qu'il vaut mieux s'attacher juste au Christ. Et qu'il vaut mieux se méfier de tous ces prédicateurs. Eux, ils savent qu'en lisant leur Bible, par le Saint-Esprit, ils n'auront pas besoin, ils n'ont pas besoin des autres. Dieu leur a déjà tout donné. En choisissant des orateurs, les Corinthiens s'accaparaient les responsables. Et en faisaient un peu leur cheval de course, leur champion. Pourquoi? Pour se mettre eux-mêmes en valeur. La quête de reconnaissance passait par l'écrasement du camp adverse. Cette attitude est à l'opposé de la croix, nous dit Paul. Leur division divise le Christ et par ricochet, verset 10, divise l'Église. Ils oublient qu'un seul a été crucifié pour eux. Et que leur baptême a été fait au nom du Christ et pas au nom de je ne sais quel prédicateur. Ce qui unit l'Église, c'est l'Évangile, le moyen de connaître Dieu. Un Christ crucifié qui a renoncé à tous ses droits par amour pour les pécheurs. En ce sens, la croix est vraiment une folie. Nietzsche a, à mon sens, parfaitement résumer la folie du christianisme dans son livre L'Antéchrist. Qu'est-ce qui est bon? Tout ce qui exalte en l'homme le sentiment de puissance, la volonté de puissance, la puissance elle-même. Qu'est-ce qui est mauvais? Tout ce qui a sa racine dans la faiblesse. Cette faiblesse, cette folie de la croix se déploie tant dans le message, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie, tant dans les destinataires du message que dans les témoins de ce message. Et elle nous permettra de répondre à ces trois questions. Comment on peut connaître Dieu? Par quel message? Comment? Qui peut le connaître? Et qui transmettra ce message? Comment peut-on connaître le message? Je vous invite à lire avec moi versets 18 à 25. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que celle des hommes. Paul nous montre que les hommes empruntent naturellement deux voies, nous dit Paul. Deux chemins, celle des juifs qui recherchent un miracle, et celle des grecs qui recherchent la sagesse. Celle des juifs qui demandent un miracle, et celle des grecs qui recherchent la sagesse. Celle des juifs, c'est un peu la manière, je crois que ce que je vois. Les juifs, dans leur ADN, attendaient le salut de Dieu par une intervention majestueuse de Dieu dans l'histoire. Une démonstration de puissance. Comment pourrait-il faire confiance en un Dieu s'il ne donnait pas une preuve majestueuse et toute puissance? Il était impensable, selon leur lecture de l'Ancien Testament, que le Messie ne se conforme pas à cela. La parole de la croix, un homme qui meurt sur une croix pour nous, était en contradiction avec tout ce qu'il pensait. Aucune puissance à la croix, mais une faiblesse. Aucune majesté, mais une humiliation. Aucune victoire, mais une défaite en apparence, par la main en plus, des non-juifs. Un tel crucifié ne pouvait être que maudit. Certains juifs avaient peut-être été convaincus par les miracles que Jésus faisait, mais il a été complètement disqualifié par la mort. Beaucoup d'hommes et de femmes en quête de Dieu aujourd'hui attendent que Dieu se révèle par des miracles. Leur connaissance de Dieu doit provenir du miraculeux. Dieu doit leur donner ce qu'ils demandent. Et c'est ça la démonstration qu'il est vivant. Il doit se manifester pour qu'ils croient. Mais ce que l'on sait, c'est que Jésus, déjà du temps de son époque, ne se fiait pas à ceux qui croyaient à cause de l'homme, de ses miracles. Car la foi ne peut pas se fonder sur les miracles. Dieu ne prend aucun plaisir à cela. Avons-nous substitué la croix au miracle ou le miracle à la croix? Si c'est le cas, alors notre foi est bien faible et proche de tomber. En effet, la foi qui trouve sa raison d'être dans le miraculeux ne résistera pas à l'épreuve des circonstances de la vie. Quand la prière ne verra pas immédiatement l'exaucement, la foi n'aura plus rien à quoi se raccrocher. Quand le miracle fond de la foi, nous ne connaissons pas Dieu, nous connaissons ce qu'il donne. Et c'est bien différent. Ce n'est pas Dieu. Mais Paul ne disqualifie pas que le miracle. Ce qu'il disqualifie aussi, c'est la recherche par la sagesse, l'intelligence et la raison. Les Grecs cherchent la sagesse, verset 22. Là, c'est la manière réflexion, preuve, intelligence. Dans cette quête, c'est l'intelligence qui va nous permettre de connaître Dieu. Et pour le grec de l'époque, il n'y a pas de plus noble ambition que de rechercher cette sagesse. La quête du grec se résume en deux verbes, connaître et comprendre. Le grec avait une grande soif de savoir et pour lui le pire ennemi c'était l'ignorance. Les barbares privés de culture étaient les plus méprisés. Le sage, le philosophe s'efforçait de rendre accessible son message en essayant de vivre, mais il avait du mal, mais il essayait. Le monde occidental du XXe siècle, proche de la Grèce ancienne, était confiant dans la raison humaine. Il comptait trouver son espoir dans la science pour lui donner la maîtrise du monde, pour mettre en place une organisation sociale qui aboutirait à la paix. C'était l'espérance du début du XXe. L'humanité pouvait espérer aller de progrès en progrès avec la paix. Le bonheur, la justice commencerait à être établie. Mais vous dites, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Mais entre-temps, il y a eu deux grandes guerres mondiales, de nombreuses petites, des dictatures, une inégalité de plus en plus croissante entre les pays riches et les pays pauvres, la violence qui va jusque dans les cours de récréation, qui va jusque dans nos rues, avec les attentats qui va jusque dans nos familles. L'homme du 21e est beaucoup moins idéaliste. Tout cela a bien contribué à saper la confiance en la science, la politique et tout discours d'espérance. Le monde a progressé dans le domaine de la puissance, mais très peu dans la sagesse. Ce ne sont pas les hommes qui s'élèvent vers Dieu par leur prétendue sagesse. Non, ça c'est leur espoir. Ils se croient capables par eux-mêmes d'accéder à Dieu, mais leur orgueil les amène à ne pas pouvoir le connaître. Tous les efforts, dit Paul, sont vains et réduits à néant. Car la sagesse des sages a été anéantie, nous dit l'apôtre. Elle ne permet pas d'atteindre la connaissance. Le miracle non plus ? La sagesse non plus, car ces deux approches, c'est toujours l'homme qui monte vers Dieu. Alors que l'annonce du Christ crucifié, c'est Dieu, en personne, qui descend à leur rencontre. La connaissance de Dieu ne passera que par cette prédication de la folie de la croix. Comment est-il possible qu'une religion soit né, que le christianisme soit né d'un tel message, d'un homme crucifié? Parce que c'est Dieu qui prend l'initiative et qui vient vers eux. C'est Dieu qui prend l'initiative d'envoyer son propre fils et par ce fils de donner le pardon, la réconciliation vis-à-vis de lui. Certaines personnes, peut-être parmi nous, ont peut-être un jour dit, mais j'aimerais bien avoir ta foi, Samuel, mais moi, j'y arrive pas. Sous-entendu, je suis trop intelligent. Je pense que nous pouvons, et nous leur devons, de leur poser trois questions. Veux-tu vraiment avoir la foi? La recherches-tu vraiment? Acceptes-tu de renoncer à toute sagesse et toute preuve pour connaître Dieu? Acceptes-tu de demander pardon et d'accepter? Demander pardon pour tes péchés et d'accepter l'œuvre de Christ, mort pour toi. La croix, c'est la folie de la gratuité. C'est la folie d'un acte d'amour désintéressé, celui de mourir pour des ennemis, ennemis que nous étions face à Dieu. C'est un acte gratuit d'un Dieu saint qui vient lui-même payer à notre place. D'ailleurs, ce message, il est urgent, nous dit Paul, et dramatique. Il nous place chacun devant deux chemins, verset 18. Soit un chemin qui mène à la perdition, soit un chemin qui mène au salut. C'est pas juste une option, mais c'est un message qui conditionne l'éternité avec Dieu ou sans Dieu. Car connaître Dieu, ça veut dire être sauvé, c'est-à-dire être délivré de nos péchés, de la mort physique, un jour de la mort spirituelle et de la mort éternelle. C'est pas juste un débat politique ou je ne sais quelle discussion futile, non, c'est de notre éternité qui est en jeu. Mais à qui Dieu désire se révéler? À qui Dieu désir parler? Ça, c'est notre deuxième point. Versets 26 à 31. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à rien, à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice sanctification, rédemption. Afin que, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Pour convaincre Paul, les Corinthiens, que l'évangile ne tient pas compte de la sagesse, il les prend en exemple. Et un peu, il pourrait leur dire dans les formes d'aujourd'hui de cette manière. Mes frères, vous placez votre espérance dans la sagesse, mais vous êtes étonnants. Regardez, selon les standards grecs de l'époque, dans la grande majorité de l'assemblée, vous ne faites pas partie de l'élite intellectuelle et sociale et financière. Vous êtes bien du bas de l'échelle. Vous faites partie des catégories sociales humbles et peu instruites. Vous êtes des gens sans importance aux yeux des hommes. Vous me jugez, moi et mon enseignement, selon des standards de grecs, mais regardez-vous, et si je vous juge selon les mêmes principes avec lesquels vous me jugez, alors vous aussi, vous êtes méprisable et insignifiant. Vous êtes méprisé, vous n'êtes même pas, vous n'avez aucun poids social, vous comptez comme zéro aux yeux des hommes. Mais malgré tout, Dieu vous a choisi. La répétition de ce « Dieu vous a choisi » par trois fois montre la place de Dieu dans la constitution de son peuple. C'est Dieu qui choisit son peuple. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dira le Seigneur Jésus, mais c'est moi qui vous ai choisi pour que d'un rien que vous êtes, j'en fasse un peuple qui me connaisse. Dieu n'a pas choisi ce qui est grand, puissant, riche, mais ce qui n'est rien, petit et faible. Il aurait pu choisir des hommes politiques, il aurait pu choisir des hommes d'affaires pour financer la mission, il aurait pu choisir des stars de cinéma pour faire la pub. Mais ce n'était pas sa volonté. Il a voulu se révéler aux petits plutôt qu'aux grands. Même si des exceptions existent, il y avait des chrétiens riches à Corinthe et même un responsable de la ville qui s'appelait Éraste, qui était le trésorier de la ville. Pour le monde, cette perspective est une folie. Encore une fois, Dieu choisit ce qui est faible. Et Nietzsche montre bien cette folie. Périssent les faibles et les ratés. Premier principe de notre amour des hommes. Et qu'on leur aide encore à disparaître. Nietzsche dans l'Antéchrist. C'est bizarre alors. Qu'est-ce que Dieu attend alors de moi, si Dieu est celui qui choisit? Eh bien, d'un certain côté, je dis bien d'un certain côté, rien. L'histoire de la transformation des cœurs, elle est du côté de Dieu. L'évangile de la croix détruit nos présomptions en nous révélant que c'est lui seul qui nous sauve. Ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu qui nous a permis de l'accepter. C'est lui qui a tout fait. Pour cela, il nous a acquittés. Nous ne sommes plus sous le coup d'aucune condamnation devant Dieu, nous dit le texte. Nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire nous sommes saints. Et nous sommes libérés de l'esclavage de nos passions, de notre ancienne manière de vivre. Un peu comme un enfant qui a été adopté. Un enfant qu'on adopte. On doit faire des formes, on doit assister à des entretiens. De multiples entretiens. On doit dépenser beaucoup d'argent, se déplacer parfois dans 1, 2, 3, 4 pays. On doit faire et faire perdre du temps, un temps fou. Mais pour cet enfant, tout est reçu. Tout est donné. Tout est donné. C'est ça la folie du choix de Dieu. Envers nous, il a tout fait. Il a tout fait pour nous. Nous avons juste à accueillir cela. La croix du Christ annule tous les motifs d'orgueil. Et nous pouvons être fiers, fiers dans le cadeau immérité de Dieu à notre rencontre. Il le fait avec les plus faibles d'abord pour que l'honneur lui revienne à lui seul. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus rien à faire? Plus rien à dire? C'est le troisième point de notre message. Qui transmet le message? Versets 1 à 5 du chapitre 2. Pour moi, frère, Lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Christ, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Paul trouve une illustration de la croix dans son propre ministère. Sa façon d'être et de prêcher a été en accord avec l'évangile de la croix. Sa prédication s'est incarnée dans l'humilité et l'humiliation. Sa prédication a même sans doute été l'objet peut-être de moqueries à Corinthe. Mais la prédication de la croix était la seule chose qu'il voulait enseigner. Il aurait été peut-être plus facile de présenter le Christ comme un modèle de vie ou comme un maître à penser. Il a renoncé à convaincre même au moyen de la rhétorique, de la science du langage avec une habileté. Non, il ne voulait pas que ses auditeurs se reposent sur la force de persuasion, mais sur le message de Jésus-Christ. Paul s'est présenté loin de l'assurance de ses enseignants qui utilisaient la persuasion et la séduction pour amener leur auditoire, quelle que soit d'ailleurs la vérité qui était enseignée. Il faisait confiance à l'évangile, croyant qu'elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Eh bien oui, il faut simplement et seulement que Dieu intervienne pour que des gens croient, mais il faut aussi que nous participions dans l'annonce de l'évangile. La parole, le témoignage, c'est une parole qui nous vient d'ailleurs. Nous avons tous reçu cette parole venant d'ailleurs. Pas directement de Dieu, mais au travers de la nuée de témoins qui ont été les témoins de cette parole. La prédication est une nouvelle, elle est une annonce. Chacun doit l'entendre d'un autre. Et c'est pas juste une information, mais c'est un appel. On est invité à y répondre. Et si vous n'avez pas encore accepté ce message de la croix, alors vous êtes toujours, toujours le moment pour le recevoir. Il y a d'ailleurs des personnes à la fin du culte dans cette salle qui peuvent prier pour vous. L'annonce de la bonne nouvelle n'est pas une affaire de spécialistes. L'annonce de la bonne nouvelle n'est pas pour les forts, elle est pour ceux qui sont prêts à propager l'évangile, même s'ils sont dignes de mépris. Et en plus, ce message, il est puissant. Oui, la folie de la croix est une puissance de Dieu, verset 4. Mais comment ça, Samuel? Tu nous as dit tout à l'heure que nous ne pouvions pas compter sur le miracle pour notre salut. Alors, en quoi il peut y avoir de la puissance dans ce message? L'annonce de l'évangile, quand elle touche des hommes et des femmes, est une puissance sans précédent. Elle découvre l'œuvre de l'Esprit. La puissance de la croix se voit dans les vies qui sont transformées. Une vie changée, ce n'est pas l'objet de discussion. Paul l'a vécu. Paul était un persécuteur, un terroriste juif qui était là pour tuer les chrétiens et cela par zèle pour son amour pour Dieu. Il est venu, et après il en est venu à prêcher l'amour et à être persécuté auprès de ses anciens collègues. C'est un bouleversement radical. Qu'est-ce qui a pu l'amener à cette transformation? Mais il avait aussi vu la puissance de la croix dans bon nombre de vies qu'il a vu transformer. Des hommes et des femmes qui ont vécu cette réalité du salut, qui ont vécu cette réalité de la croix dans leur vie. Avec nos amis en quête spirituelle, nous sommes invités à leur témoigner ce que Dieu a fait dans nos vies. Et il y a beaucoup de puissance dans ce que Dieu a déjà accompli dans notre vie. J'aimerais par exemple vous parler de ce jeune qui était en quête de spiritualité toute sa jeunesse. Il est parti aux Indes pour rencontrer quelque chose et puis il est revenu mais il était perdu et ses parents catholiques non pratiquants était très inquiet de son cheminement spirituel. Il avait plus de cheveux. Vincent Esterman, l'ancien pasteur de Mylène, raconte comment ce jeune homme a rencontré le Seigneur Jésus et de quelle manière sa vie en a été bouleversée. Et comment la joie profonde est venue sur lui. Et comment ses parents en étaient les témoins et étaient tellement joyeux de devoir venir à son baptême pour voir et pour qu'il témoigne de cette œuvre de transformation qu'il avait vécue. Ce fut un témoignage puissant de l'œuvre de Dieu dans les cœurs. Et beaucoup de chrétiens parmi nous ici pourraient témoigner de cette œuvre de transformation extraordinaire que Dieu fait dans nos cœurs, dans nos tempéraments, dans nos vies. Connaître Dieu est bien un miracle sans précédent et en amène d'autres. Même si Dieu a choisi son peuple, il a aussi, nous a aussi choisi pour en être les témoins. Il ne me reste plus qu'à annoncer ce message partout où je vis, où je suis. Alors quand demain, vous serez à la machine à café ou avec vos amis, cet après-midi peut-être, aux collègues, vous vous rappellerez que pour connaître Dieu, il n'y a qu'un seul message, le Christ crucifié. Scandale pour ceux qui attendent que Dieu se révèle par un miracle et folie pour ceux qui espèrent le connaître par la sagesse. Vous vous rappellerez aussi que Dieu a choisi de se faire connaître et que c'est lui qui choisit et que c'est pour sa seule gloire, pour que nous ne puissions avoir aucune fierté dans cette quête de Dieu. C'est lui seul en qui revienne la gloire. Dans tout cela, les efforts et les prétentions humaines sont anéantis. Voilà pourquoi la croix du Christ est une folie pour le monde et pour la sagesse du monde. Car il nous disqualifie totalement pour que toute la gloire revienne à Dieu. Je l'invite à prier. Ce message, effectivement, est une folie. Ce message de la croix, cet homme, ce Dieu qui vient à notre rencontre, qui meurt sur une croix pour que nous puissions être justifiés, et cela par amour. Un amour tel, un amour immense, un amour dont, pour que nous puissions être rétablis, que nous puissions vivre pour toujours une éternité avec notre Dieu. Cette croix qui semble un échec à vue humaine, qui semble une folie, tout ça tu l'as fait. Tu l'as fait pour nous. Et on est infiniment reconnaissant de pouvoir aujourd'hui avoir été ce peuple choisi qui doit faire le constat que par lui-même, il est incapable de te connaître. Mais grâce à la révélation que tu as opérée par ta parole et par le fait que tu nous aies choisis, aujourd'hui nous pouvons te connaître, vivre une expérience vivante qui produit des changements radicaux dans nos vies et qui nous amène à une joie profonde dès maintenant, malgré les difficultés. Vraiment, merci, Père éternel, de ton amour pour nous. Amen.